Fort de cette conviction, les vieux Français attribuaient volontiers leur succès et leur victoire à l'intervention de Saint-Michel. Ainsi, Philippe II Auguste, baptisé dans le sanctuaire consacré à Saint-Michel dans la cité, lui attribua sa victoire à Bouvines, tandis que les croisés le voyaient caché dans tout leur succès. Qui de nous ignore la dévotion des rois à Saint-Michel ? Après que la France eut fait l'expérience de la passion du Christ avec la guerre de Cent Ans et que Saint-Michel eut conduit Jeanne d'Arc et ses armées à la résurrection, Charles VII enrichit encore le culte de l'archange. Charles VIII vint encore au Mont Saint-Michel et Louis XI institua un ordre de chevalerie à son honneur. Que venait-il faire ? Implorer parfois le secours de Saint-Michel, mais la plupart du temps, il venait le remercier. On comprend que Charles VII eut impérieusement éprouvé le désir de remercier l'archange qui avait appelé et conduit Jeanne d'Arc pour lui rendre son trône. Lors de son entrée triomphale dans Paris enfin reconquis, le 12 novembre 1437 pour mémoire, devant lui, lit-on, marchait un écuyer qui portait un étendard de soie rouge, tout semé d'étoiles d'or et au milieu l'image de Saint-Michel. Plus avant, au retour de la triste croisade de Tunis, Philippe III le Hardi était venu remercier l'archange d'avoir protégé le royaume de la peste. C'eût été normal si l'on avait fait alors force dévotion à Saint-Michel pour obtenir que c'est ça l'épidémie, mais rien ne vient au secours de cette hypothèse. Il faut comprendre que le roi croyait à une sorte d'harmonie entre la France fidèle et son ange tutélaire, pensant qu'à chaque instant, il est là pour garder la France, protéger la France et conduire ses armes à la victoire si la guerre est juste. La victoire ? Mais nous avons eu des défaites. Nous avons eu des épidémies, nous avons eu des catastrophes, certes. Nous avons eu des victoires, mais nous n'avons pas non plus été épargnés. Et alors, est-on si mal instruit des réalités divines ? Ne voyons-nous pas que ces défaites et ces calamités même sont des victoires et des guérisons ? La croix n'est-elle pas une victoire ? N'est-il pas nécessaire de passer par la passion et par la croix pour arriver jusqu'à la gloire de la résurrection, comme nous le disons chaque fois que nous récitons l'Angélus, curieusement d'ailleurs introduit par le roi Louis XI, fondateur de l'ordre de Saint-Michel. Si la France, pour parler comme Grégoire IX, est devenue le peuple de Judas nouveau, elle doit connaître elle aussi et elle surtout, non pas en figuration mais en continuation, ce que le Christ a connu. Membre choisi du corps mystique du Christ, comme tous et chacun des fidèles, elle doit souffrir pour compléter en sa chair ce qui manque aux afflictions du Christ en faveur de son corps qui est l'Église, selon ce que le saint apôtre Paul enseignait aux Colossiens. La vraie gloire ne s'acquiert que par la croix. La souffrance et l'offrande de sa souffrance est la gloire. La gloire, c'est de souffrir, la gloire, c'est de tenir, la gloire, c'est de combattre. Quoi qu'il puisse en paraître, à sachant qu'un jour sera la victoire. Voilà la force et la conviction que l'on obtient de Saint-Michel au cours du combat pour le bien, pour Dieu et le salut du monde. Représentez-vous, je vous prie, la France du XVe siècle. D'aucuns ne voient apparaître Saint-Michel que lorsqu'il s'adresse à Jeanne d'Arc pour l'investir de son extraordinaire mission libératrice. Mais on a passé toute la guerre de Cent Ans à se battre au pied du Mont Saint-Michel. Il n'est pas sans intérêt de noter que le malheureux roi contre qui a commencé la guerre de Cent Ans, Philippe VI de Valois, est le premier à avoir fait une consécration officielle du royaume à Saint-Michel-Archange. La guerre est pourtant arrivée et elle a duré, interminable, à une époque où l'espérance moyenne de vie n'était pas de 30 ans. Des générations entières n'ont jamais connu la paix. Et pourtant, dans cette peine et cette obscurité, les meilleurs tiennent les uns après les autres, inébranlablement confiants en celui qui est le vrai chef du royaume, le Christ et son ange, Saint-Michel. Le Moyen-Âge s'achève dans cette conviction. La création de l'ordre de Saint-Michel par Louis XI, en 1469, est une action de grâce, en même temps qu'un encouragement pour ce qui va venir. La conviction s'affaiblit au siècle suivant. La Renaissance n'a pas trop parlé de Saint-Michel, encore qu'il n'est pas tout à fait absent, comme on peut le voir dans les arts. Il est cependant si bien associé à la France que l'ambassadeur d'Angleterre en Espagne refuse d'assister à l'office en l'honneur de Saint-Michel que Charles Quint avait fait célébrer à Saragosse le jour de sa fête en 1518. Après le désastre de Pavie, François Ier remplace la salamandre de ses armes par une coquille de l'ordre de Saint-Michel. Il était bien temps. Pendant les guerres de religion, il ne manque pas de processions pour implorer le secours de Saint-Michel contre l'hérésie, comme celle qui se fait à Paris le 29 septembre 1568, à quoi Henri III attribua les victoires de Jarnac et de Moncontour. D'aucuns, lorsque le roi Henri IV, entrant dans Notre-Dame, vire près de Sa Majesté Saint-Michel, l'ange gardien de la France, en façon d'un jeune enfant, comme en l'âge de 6 ou 7 ans, signalé par l'excellence en beauté et revêtu de blanc, ainsi qu'ordinairement les peintres nous dépeignent les anges, qui tout au long de la cérémonie se tint aux côtés du roi, et Issel fini disparut aussitôt. Lorsqu'on arrive au début du XVIIe siècle, à la consolidation de la réformation catholique en France, l'archange Saint-Michel est certes évoqué, mais plus avec cette force qu'on avait connue autrefois. Il suffira, pour vous en convaincre, d'aller consulter les tables des matières des prédications et des pieux ouvrages du début du grand siècle. C'est la Vierge Marie qui va ramener la France à Saint-Michel. Vous vous souvenez que Louis XIII et le cardinal de Richelieu, largement aidés et soutenus par le père Joseph du Tremblay, entraînant derrière eux des bataillons serrés de saintes âmes, ont consacré le royaume à la Vierge Marie. En cette consécration, la pensée du roi s'accorde parfaitement avec ce que ses lointains prédécesseurs avaient professé par l'intercession de Saint-Michel. Louis XIII, songez-y bien, remercie Dieu par la Vierge de ce qu'il n'a pas encore, pour faire court, ni dauphin, ni paix. Cependant, il a la conviction que la persévérance obtiendra la victoire. Il ne fit d'ailleurs pas cette consécration devant la Vierge en Assomption, mais devant la statue de la Vierge des Douleurs. D'ailleurs, les années qui suivirent cette consécration sont bien terribles. Et après la mort du roi vient la régence avec les multiples révoltes intérieures et les guerres extérieures. Les révoltes de la Fronde où la guerre civile se fait sur fond de guerres étrangères, d'épidémies et de famines. Nul ne sait alors comment sortir de cet engrenage funeste. Anne d'Autriche, pieuse reine, s'il en fut, sans abandonner rien du terrain politique et militaire, cherche ardemment le secours du ciel. C'est alors qu'après bien d'autres, la régente consulte M. Ollier, le fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice, sur l'œuvre de piété qu'il juge la plus propre à fléchir la justice divine. À cette occasion, M. Ollier lui rappelle, ou lui apprend, car elle était espagnole, la pauvrette, ce qu'est Saint-Michel pour la France. Il lui conseille de se vouer à l'archange Saint-Michel, protecteur de la France, et d'instituer la messe du premier mardi du mois, dont les compagnons de Saint-Michel-Archange demandent la propagation avec justesse. Si vous pensez que les temps sont mauvais, et que nous sommes affrontés à de formidables systèmes qui, s'arrogeant le droit de réviser la loi divine, veulent emprisonner les âmes pour les rendre incapables de vivre avec Dieu en esprit et en vérité. Qui pourriez mieux appeler à votre secours que Saint-Michel-Archange? La sublime question qui nomme l'archange, qui est comme Dieu, ne s'adresse pas au seul Lucifer, ni même à ses seuls anges. Elle s'adresse à chaque homme et singulièrement au chef des peuples. Si l'affreuse bête de l'Apocalypse, dont les exploits funèbres remplissent les derniers temps, recule devant l'archange Saint-Michel, ce n'est point seulement parce qu'il crie sa formidable question, mais parce qu'il est lui-même cette question. Vous aussi, mes frères, à son imitation, devenez cette redoutable question qui terrasse les démons. Criez-la aux ténèbres répandues sur le monde par votre attention à la parole de Dieu, par votre stricte observance et par votre pratique cultuelle. Criez-la en appliquant votre intelligence à la vérité révélée que l'Église vous enseigne, en soumettant votre volonté au commandement divin que l'Église vous rappelle, en nourrissant vos vies des grâces que le Seigneur vous a préparées et que l'Église vous distribue. Vous demandez que Saint Michel vous protège et vous voulez gagner avec lui le combat contre les puissances démoniaques. Alors, battez-vous avec ses armes en étant à la face du monde, de ceux qui proclament que nul n'est comme Dieu. Sachez-le bien, vous ne vous battez pas, quoi qu'il puisse vous en paraître, contre des hommes, sous leurs systèmes immondes qui offensent la face du Tout-Puissant. Ce sont les démons qui agissent. Et cela, vous n'en serez pas vainqueur par des discours, par des suffrages électoraux, par des finesses diplomatiques, ou par je ne sais quelle arme du monde, mais par la pénitence, par la prière, par le sacrifice et par l'observance. Puissent vos cœurs, mes frères, s'ouvrir largement au mystère de l'archange Saint-Michel, de sorte qu'il vous aide à devenir plus droit, plus fort et plus pur, témoin incorruptible de la vérité divine qui demande votre aveu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.